France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Aux États-Unis, une coalition de 16 États a décidé d'engager hier une procédure judiciaire contre la décision de Donald Trump de proclamer l'état d'urgence nationale pour obtenir la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Cette procédure pourrait ralentir les démarches engagées par le président américain, mais on peut de chance de l'empêcher.
Même si le Brexit n'est pas la seule cause de leur décision, il l'a bien souvent précipité. C'est ainsi que de plus en plus d'entreprises japonaises disent aujourd'hui bye-bye à la Grande-Bretagne.
Ce matin, le groupe automobile Honda a secoué à son tour le Royaume-Uni en annonçant la fermeture de son usine, laquelle emploie quelques 3500 travailleurs dans le sud de l'Angleterre.
Tous les grands partis politiques français ont annoncé leur participation ce soir à des manifestations communes contre l'antisémitisme, à l'exception du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui prévoit des initiatives distinctes.
Quant au président Emmanuel Macron, il a lui décliné l'invitation du Parti socialiste à l'origine de cet appel à l'Union. En revanche, le chef de l'État ainsi que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale se recueilleront cet après-midi au mémorial de la Shoah. François de Rugy, Jean-Michel Blanquer, mais aussi Édouard Philippe, depuis ce matin, tous sont invités à participer au Grand Débatton, sorte de déclinaison du Grand Débat National organisé par des jeunes youtubeurs.
L'Institut Montaigne et Elab publient aujourd'hui le baromètre des territoires 2019, une étude où il apparaît que le bonheur privé et la souffrance sociale cohabitent chez une majorité de Français.
Thomas. Et puis autre enseignement, la fracture sociale serait plus forte aujourd'hui que la fracture territoriale. Pour en parler avec nous dans une vingtaine de minutes, invité Victor Poirier, directeur adjoint des études de l'Institut Montaigne. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Orthographe, féminisation de la langue, bibliothèque, autant de sujets que nous aborderons avec notre invité. Éric Orsena, il est écrivain et académicien. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Voilà plusieurs jours déjà que des suites judiciaires à l'urgence nationale décrétée par Donald Trump pour construire un mur à la frontière mexicaine se dessinaient. Et ironie du sort, c'est donc hier, autrement dit à l'occasion du President's Day, du nom de ce jour férié décrété en l'honneur des différents présidents des États-Unis, qu'une coalition de 16 États américains a décidé de poursuivre l'actuel locataire de la Maison-Blanche, accusé de se servir en somme d'une crise à la frontière comme d'un prétexte, alors même que cette crise n'existe pas. Cette plainte, déposée devant un tribunal fédéral en Californie, estime surtout que la déclaration d'urgence de Donald Trump contrevient en réalité à deux dispositions constitutionnelles, l'une définissant les procédures législatives et l'autre attribuant au Congrès le dernier mot en matière de financement public. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors on imagine que Donald Trump savait à quoi s'attendre en prenant sa décision unilatéralement et sans doute comptait-il déjà au bout d'une possible procédure judiciaire sur la majorité conservatrice de la Cour suprême pour obtenir gain de cause. Du coup, cette initiative a-t-elle une vraie chance d'aboutir, Nathanaël?
On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. La première bataille judiciaire, donc, comme on pouvait s'y attendre, concerne cette fameuse notion d'urgence. Donald Trump, la semaine dernière, pour justifier d'avoir recours à l'urgence nationale, avait noirci le trait en expliquant que les États-Unis étaient envahis par des hordes de réfugiés, de gangs. Il avait avancé le chiffre de 200 000 en quelques mois. Mais voilà, son administration ne dit pas tout à fait la même chose. Des données publiées notamment par les douanes expliquent que les entrées illégales sont au plus bas depuis 45 ans. Et autre tendance intéressante, il s'avère que les migrants ont moins tendance à commettre des crimes que les Américains nés dans le pays. Donc la notion d'urgence est toute relative. Autre argument avancé, celui des fonds utilisés, vous l'avez évoqué, pour la construction du mur. Les opposants estiment que Donald Trump les détourne, que cet argent va manquer pour financer certains programmes et que surtout dans la Constitution, c'est au Congrès qu'il appartient d'avoir le dernier mot en matière de financement public. L'autre angle d'attaque des 16 États est plus inattendu. Il concerne le respect de l'environnement. Les plaignants estiment que le président américain a enfreint la loi sur la protection de la nature en n'évaluant pas l'impact environnemental du mur en Californie et au Nouveau-Mexique. Il est donc demandé la suspension de la déclaration d'urgence tant que la bataille judiciaire se poursuit. Mais il faut savoir que même si les États obtiennent gain de cause, et c'est là votre question dans les procédures à venir, le mot de la fin reviendra lui à la Cour suprême, cour dont certains membres très conservateurs ont été nommés par Donald Trump en personne, à commencer par le juge Brett Kavanaugh qui avait défrayé la chronique au moment de sa nomination pour une affaire d'agression sexuelle, mais qui avait au final été imposé par le président américain.
Merci Nathanaël Charbonnier. Pour tenter de mettre un terme à la première crise politique de son mandat dans laquelle l'un de ses fils a d'ailleurs été impliqué, le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé hier l'un de ses principaux ministres, Gustavo Bebiano, le ministre du secrétariat général de la présidence, faisait face depuis une semaine à des accusations de malversation présumées dans le cadre du financement de la dernière campagne présidentielle. On le soupçonne d'avoir détourné des fonds publics alors qu'il était président du Parti Social Libéral, la formation d'extrême droite à laquelle appartient le chef de l'État. L'homme proche du président nie les accusations portées à son encontre. Toujours est-il qu'il est aujourd'hui le premier ministre, donc a quitté l'équipe au pouvoir depuis un mois et demi. Gustavo Bebiano a aussitôt été remplacé par un général de réserve, ce qui porte désormais à 8 sur 22 le nombre de militaires du gouvernement. Autre crise politique au Canada, cette fois-ci le plus proche conseiller politique de Justin Trudeau a annoncé hier sa démission du cabinet du premier ministre afin de se défendre contre des allégations qu'il rejette lui aussi dans une affaire là encore explosive, d'autant plus qu'elle intervient à quelques mois seulement d'élections législatives qui s'annoncent serrées, considérées non seulement comme l'éminence grise de Justin Trudeau mais aussi l'architecte de sa victoire en 2015. Gerald Butts a annoncé son départ et nie être intervenu pour éviter un procès au géant canadien de l'ingénierie impliqué dans un vaste scandale de corruption en Libye. Le Parlement et le Conseil européen sont parvenus ce matin à un accord pour réduire de 30% les émissions de dioxyde de carbone des camions et des autocars neufs d'ici à 2030. Il faut dire que jusqu'à présent, et à la différence de certains pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon ou le Canada, l'Union européenne n'avait aucune limitation légale des émissions des poids lourds. Or, ces camions représentent tout de même près du quart des émissions trouvant leur source dans les transports dans les pays de l'Union. Environnement toujours et encore, c'est aujourd'hui que doit être lancé à Paris un pacte financier destiné à sauver le climat. Ce projet de traité prévoit notamment la création d'une banque européenne spécialisée dans le climat et la biodiversité, de même qu'un fonds spécifique qui totaliserait à eux deux jusqu'à 300 milliards d'euros par an. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec pour objectif de financer la transition écologique sur le territoire de l'Union, mais aussi en Afrique, ce pacte vise en réalité, Marie, un double défi, résoudre la crise climatique tout en évitant une crise financière.
Oui, ce projet de traité est porté par l'économiste Pierre Laroutourou, ancien socialiste, et le bien connu climatologue Jean Jouzel. En décembre dernier, ils avaient déjà, dans une tribune, défendu cette idée de banque climatique et de budget européen dédié à la transition. L'idée de base est simple. Pour financer la transition énergétique, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc éviter la crise climatique et la crise financière qui en découlera, il faut de l'argent et beaucoup d'argent. Selon la Cour des comptes européenne, l'UE devrait investir 1115 milliards d'euros par an entre 2021 et 2031 dans les transports, les logements, les services, l'énergie et l'industrie pour respecter les objectifs climatiques. 1115 milliards alors que le budget de l'Union européenne actuellement est de 160 milliards, ça fait une grande différence. Alors, où trouver cet argent? De deux façons, nous disent Jean Jouzel et Pierre Laroutourou. Un, par un impôt sur les bénéfices des entreprises européennes, hors artisans et PME. L'argent récolté, sonnant et trébuchant, financerait des projets favorisant la transition écologique en Europe, mais aussi en Afrique et sur le pourtour méditerranéen. Et deux, par la création d'une banque européenne du climat et de la biodiversité apte à créer des euros, comme le fait actuellement la Banque Centrale Européenne depuis 3 ans pour acheter des obligations d'État et d'entreprises, ces euros étant ensuite mis à disposition des pays de l'UE pour financer des projets de transition énergétique. Le problème, c'est que l'idée de créer de la monnaie pour financer des projets sectoriels, même salvateurs, est pour le moment impensable dans l'UE, de même que l'idée d'impôts européens sur les bénéfices. Malgré ces propositions détonnantes, 600 personnalités allant d'Alain Juppé à Podemos en Espagne ont signé ce projet de traité, de même que 241 députés français et d'anciens ministres. Alors qui sait, peut-être qu'un jour ces dogmes monétaro-fiscaux européens peuvent tomber. Ce débat crucial ne fait que commencer.
Merci Marie Viennot. À 38 jours de la date fixée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le ministre britannique chargé du Brexit doit rendre compte aujourd'hui en Conseil des ministres de la rencontre qualifiée de positive qu'il a eue hier à Bruxelles avec son homologue européen, sauf que l'ordre du jour pourrait bien s'en trouver légèrement bousculé après que le groupe Honda a confirmé ce matin la fermeture en 2021 de son usine britannique dans le sud de l'Angleterre, une fermeture susceptible d'entraîner la suppression de quelques 3500 emplois. emploi. Les suites de la crise entre le Pakistan et l'Inde autour de la région himalayenne du Cachemire. Ce matin, Islamabad a demandé l'aide des Nations Unies pour apaiser les tensions avec son voisin. De son côté, New Delhi, par la voix d'un responsable de l'armée indienne, a déclaré que l'attentat suicide perpétré jeudi dernier avait été supervisé depuis le Pakistan. Islamabad a aussitôt répondu. Le Pakistan se dit prêt à dialoguer, mais prévient qu'il ripostera s'il est attaqué. Après que le nouveau chef par intérim de la diplomatie de l'État hébreu a jeté un froid dimanche en déclarant que de nombreux Polonais ont collaboré avec les nazis, Varsovie a décidé de se retirer du sommet prévu aujourd'hui en Israël avec le groupe de Visegrad réunissant la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et donc la Pologne. Du coup, le sommet a été annulé et sera remplacé par des discussions bilatérales, de quoi obscurcir un peu plus encore cette séquence qui initialement devait illustrer donc la proximité entre d'un côté l'État hébreu et de l'autre certains des pays d'Europe centrale parmi les plus fervents partisans de l'identité ethnique et du rejet des immigrants. Nouvelle journée d'audience au procès de Mehdi Nemmouche. Aujourd'hui, ce Français est accusé d'être l'auteur, vous le savez, de la tuerie du musée juif de Belgique en mai 2014. Ce matin, le tribunal a donc entendu la plaidoirie de l'un des avocats de la partie civile, maître François Koenig, avocat de la famille de l'une des quatre victimes. Compte rendu d'audience ce matin, signé Antoine Marette.
Dominique Sabrier était une Française de 66 ans. Elle était bénévole à l'accueil du musée juif de Belgique. Le 24 mai 2014, quand la fusillade débute, elle a le temps de se recroqueviller pour éviter les balles de revolver, mais elle est finalement abattue à la Kalachnikov. Madame Sabrier s'est vue mourir, assassinée par un tueur déterminé, indique maître Koenig. Elle a vu toute la scène. Les secondes ont dû durer une éternité. L'avocat réclame justice pour les victimes et pour lui, pas de doute, Mehdi Nemmouche est bien le tueur du musée juif. Est-ce qu'on demande une preuve à 100%, la preuve parfaite, interroge l'avocat. Absolument pas, il peut rester une parcelle de doute. L'enquête est tributaire des miettes laissées par l'auteur des faits. Et dans cette enquête, les miettes sont nombreuses. La voix sur les vidéos de revendication. Un expert affirme qu'il y a une forte probabilité que ce soit celle de Mehdi Nemmouche. La taille du tueur sur la vidéo du musée, environ 1m70, 1m72 selon la police scientifique. Mehdi Nemmouche mesure 1m73. L'attentat se termine à 15h49. Mehdi Nemmouche se connecte sur son ordinateur à 16h17, juste le temps pour lui de revenir à son domicile. Maître François Koenig cite Nietzsche. Le fanatisme est la seule forme de courage et de volonté qui peut être insufflée aux faibles et aux timides. Quand Mehdi Nemmouche est revenu de Syrie, sa grand-mère l'a trouvé transfiguré, beaucoup moins timide. Et il en conclut, le terrorisme fait son œuvre, Nietzsche avait raison.
Édouard Philippe en tête, plus de la moitié du gouvernement, mais aussi de très nombreux représentants de la classe politique participeront ce soir à des rassemblements partout en France contre la hausse des actes antisémites. Tous ces rassemblements, dont le principal se tiendra place de la République à Paris, devraient offrir une parenthèse de silence dans une France de violence, autant qu'un moment de sursaut républicain face à la montée de l'intolérance. Reste toutefois plusieurs controverses. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Après les formes d'indignation à géométrie variable de la classe politique, depuis les éructations entendues ce week-end dans les rues de Paris en marge de la mobilisation des Gilets jaunes, après la polémique également sur la distinction entre antisémitisme d'un côté et antisionisme de l'autre, voilà que la question de l'absence ce soir du président de la République à l'occasion de ces rassemblements fait à son tour débat. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, à l'origine de cet appel à l'Union, avait pourtant convié le chef de l'État à y participer.
Emmanuel Macron a décliné hier l'invitation qui lui avait été faite par le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, à se rendre place de la République ce soir. L'Élysée a fait savoir que le chef de l'État s'exprimera demain soir, à l'occasion du 34e dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Qu'à cela ne tienne, Olivier Faure réitère son invitation ce matin et fait un peu la leçon à Emmanuel Macron au téléphone de notre consoeur de France Inter, Laurence Perron.
La question de l'antisémitisme n'est pas une question des juifs pour les juifs. C'est une question de toute la nation. Et donc, à mon avis, la bonne place du président de la République, c'est ce soir, place de la République.
Autre socialiste a lancé un appel à une prise de parole publique du président, Bernard Cazeneuve, l'ex-premier ministre de François Hollande. C'était ce matin, en tant qu'invité, sur France Inter.
Je ne vais pas commenter les choix du président de la République. Dans un moment grave comme celui auquel nous sommes confrontés, il lui appartient de choisir les modalités de sa parole. Mais ce que je veux lui dire, c'est que nous avons besoin, dans des circonstances comme celles auxquelles nous sommes confrontés, de la parole du président de la République. Il est le garant de l'unité, de l'indivisibilité de la nation.
Il faut rappeler à ce stade que c'est le Parti Socialiste qui est à l'origine de l'appel à manifester ce soir, suivi en cela par une vingtaine de formations politiques. Le PS, à travers cet événement, retrouve une position prééminente, comme du temps où il était la principale force politique à gauche. Les socialistes se sont hissés en quelque sorte en tête de la cordée. Ce sont eux qui ont ouvert la voie et dictent la conduite à tenir. Mieux encore, ils s'érigent en gardien de la morale face à l'antisémitisme. Voilà ce qu'il convient de faire dans des moments graves comme celui-là, semble dire en cœur Olivier Faure et Bernard Cazeneuve. Ils font ainsi rebriller un peu de leur lustre d'antan en réussissant à rassembler autour d'eux et de la cause qu'ils défendent. Il est cependant peu probable que cette initiative favorise la tentative à laquelle se livre le PS depuis quelques semaines de réunifier autour de lui toutes les forces politiques de gauche en vue des élections européennes de mai prochain.
Merci Stéphane Robert. Twitch, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il est une illustration du nouveau monde, ou disons plutôt une adaptation de l'ancien à l'ère numérique, ou comment recréer via une plateforme de streaming de jeux vidéo très populaire auprès des jeunes le traditionnel café des sports. Toujours est-il qu'afin de montrer l'importance que l'exécutif accorde à la participation des plus jeunes au grand débat national, une dizaine de membres du gouvernement a décidé de participer aujourd'hui au grand débaton, contraction de débat et marathon organisé par de jeunes youtubeurs. Roméo Van Maastricht, bonjour.
Bonjour.
Depuis 9h ce matin et jusqu'à 20h ce soir, donc plusieurs débats entre les internautes et les ministres vont se succéder. Et le premier à s'être lancé ce matin dans l'exercice n'était autre que le premier d'entre eux, Édouard Philippe.
Oui, c'est dans le chat du site. Les commentaires sur le Premier ministre sont d'abord surpris, parfois moqueurs, mais aussi très sérieux. Ils sont abordés la thématique des APL, du Service National Universel ou du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, auprès des jeunes, Édouard Philippe joue la séduction.
Je m'inscris complètement en faux sur l'idée que les jeunes ne s'intéresseraient pas à la chose politique. Je pense même qu'à certains égards, ils s'y intéressent peut-être de plus en plus. Simplement, ils n'ont pas envie de les aborder de la façon traditionnelle.
L'initiative est simple, le gouvernement veut toucher un public jeune et connecté, les 18-35 ans, en les atteignant là où ils sont le plus présents, sur Internet. Il entérine ici sa volonté de s'adresser à tout le monde de façon décalée. On a vu Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le plateau de Cyril Hanouna, Emmanuel Macron en Saône-et-Loire devant une assemblée de plus d'un millier de jeunes. Ici, sur Twitch, le format est interactif, l'ambiance décontractée, mais les sujets sérieux et se veulent sans langue de bois.
On a une toute dernière question directement du chat, c'est Matt qui nous dit « J'ai 15 ans, je m'intéresse à la vie politique, est-ce que vous êtes pour le droit de vote à 16 ans, monsieur le Premier ministre ?»
Non. En fait, je comprends très bien l'argument. À 16 ans, quand on s'intéresse à la vie publique, on a envie de participer à la décision. Je pense que l'âge de 18 ans, il correspond à quelque chose. Donc je suis plutôt sur 18 que sur 16.
Depuis, les youtubeurs ont discuté citoyenneté avec Gabriel Attal, réforme de l'université avec Jean-Michel Blanquer. Sur Twitch, à la mi-journée, on compte à peu près 10 000 visiteurs spectateurs. C'est assez peu quand on sait qu'un live Instagram peut facilement atteindre le double de spectateurs. Ce grand débat devrait néanmoins décoller en fin d'après-midi, quand les plus jeunes sortiront de classe.
Merci Roméo Van Mas. Une France coupée en deux, l'expression aura souvent été usitée depuis qu'a surgi le mouvement des Gilets jaunes. Or ce matin, voilà qu'une étude inédite du cabinet Elab et de l'Institut Montaigne sur les oppositions territoriales et leur impact sur la cohésion sociale nous apprend que la France serait même coupée en quatre. Et pour détailler ce baromètre des territoires, invité du journal Victor Poirier, directeur adjoint des études de l'Institut Montaigne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors votre étude, je le disais, révèle une France en morceaux, avec quatre groupes de Français qui se côtoient et se croisent. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous détailler ces quatre profils ?
Oui, bien sûr. Premièrement, ce n'est pas une distinction géographique, c'est vraiment des groupes de personnes qu'on peut retrouver dans tous les territoires. Alors on a premièrement les affranchis, qui sont ceux qui réalisent leur projet de vie sans entrave, qui ont le moins de problèmes possibles avec la mondialisation, un attachement assez fort à l'Union européenne. Ils représentent à peu près un quart de la population. Ensuite, on a les enracinés qui, eux, sont très heureux d'être sur le territoire dans lequel ils vivent, mais qui sont traversés par un sentiment assez fort d'injustice sociale. Ils estiment que la société française n'est pas suffisamment juste envers les citoyens. Les assignés sont ceux qui subissent de plein fouet les inégalités sociales et territoriales. C'est ceux aussi qui ont une plus forte part de gilets jaunes, de soutien aux gilets jaunes dans leur rang. Et puis enfin, on a ce qu'on appelait les sur-le-fils. Les sur-le-fils, c'est une catégorie un peu intermédiaire avec une aspiration à la mobilité sociale et géographique, mais avec une difficulté à se défaire en fait des problèmes socio-économiques qui peuvent vivre au quotidien en matière de pouvoir d'achat ou d'inégalité.
Alors, ce baromètre, Monsieur Poirier, mesure en réalité à la fois le sentiment de bonheur des Français, leur situation financière, personnelle, mais aussi leurs espoirs et leurs inquiétudes quant à l'avenir. Et à la question « Comment nous sentons-nous ?», tout d'abord, 73% des sondés se déclarent heureux, une bonne nouvelle. Sauf que si les Français font le récit d'une vie privée épanouissante, tous en réalité ne sont pas logés à la même enseigne.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est très bien d'abord de mettre en avant ce chiffre de 3/4 de Français heureux, 3 Français sur 10 très heureux. C'est quelque chose qu'on entend très peu en ce moment et qu'il faudrait souligner. Par contre, il y a une injustice sociale qui est très forte. On a 80% des Français qui considèrent que la société est injuste. 8 Français sur 10, c'est conséquent. Autrement dit, on a un bonheur privé dans la vie du fait de sa vie familiale, de sa vie sociale. Et par contre, quand on estime la société dans sa globalité, on voit que il y a des inégalités de revenus, il y a des inégalités territoriales qui créent une dissension entre les citoyens et qui créent du coup une vraie scission qu'on a essayé de mesurer à travers les 4 catégories de Français qu'on a décrites.
Alors, cette vision de la société apparaît en réalité plutôt sombre. Le futur, notamment des Français interrogés, leur semble inquiétant. Seuls 47% d'entre eux sont optimistes quant à leur avenir personnel. Et même dans les régions d'ailleurs les plus souriantes, ce taux ne dépasse jamais un habitant sur deux.
Oui, il faut peut-être relativiser ce point. Je pense qu'on a un vrai pessimisme qui ressort de ce baromètre d'un côté. Et puis de l'autre, on voit qu'on a quand même un socle social vraiment fort sur la question, par exemple, du pacte fiscal. 4 Français sur 10 estiment que les impôts sont inutiles, ce qui peut être inquiétant. Par contre, 8 Français sur 10 estiment qu'ils seraient prêts à payer plus d'impôts s'ils avaient la garantie que ces impôts seraient rendus en service public plus efficace. Donc on a une inquiétude, mais on a aussi une demande, un vrai attachement au système social français, et avec simplement un souhait de le voir plus efficace.
Un dernier point rapidement, la crise du pouvoir d'achat coupe également la France en deux. 48% vivraient des fins de mois difficiles.
48% et c'est une crise qu'on retrouve dans tous les territoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme vous le disiez, une France rurale et une France métropolitaine, ou une France du Nord, une France du Sud. On a dans toutes les régions qu'on a analysées, on a un focus représentatif sur chacune d'elles, la moitié de la population à peu près qui a des fins de mois difficiles. Et là-dessus, c'est vraiment une fracture qu'on pourrait adresser très rapidement et qui permet de voir que ce n'est pas parce qu'on habite dans une métropole qu'on a une vie heureuse. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on habite ailleurs qu'en métropole qu'on a une vie triste ou pauvre.
Bien, merci Victor Poirier, directeur adjoint, je le rappelle, des études de l'Institut Montaigne, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Et pour terminer ce journal, on vient de l'apprendre, la planète mode a perdu l'une de ses icônes, Karl Lagerfeld, le maître de la haute couture et photographe hors pair, est mort à l'âge de 85 ans. Des rumeurs sur l'état de santé déclinant du Kaiser de la mode s'étaient déjà fait entendre ces derniers temps, et la triste nouvelle est donc finalement tombée ce matin. La cause de sa mort n'est pas encore connue. Cécile de Kervas-Douai, bonjour.
Bonjour.
Évidemment, la signature visuelle du couturier d'origine allemande est notamment indissociable du renouveau de Chanel.
Oui, alors pour reprendre un petit peu le contexte finalement de cette mort annoncée dans la presse ce matin, il avait brillé effectivement par son absence lors des deux derniers défilés Chanel du mois de janvier dernier organisés au Grand Palais à Paris. Il avait donc affolé la presse people qui spéculait sur le cancer du pancréas de la star planétaire de la haute couture. Surnommé le Kaiser, Karl Lagerfeld était né à Hambourg en Allemagne en 1933 ou bien en 35 ou encore en 38. Le couturier, photographe, réalisateur, éditeur a toujours joué à brouiller les pistes sur son âge. Il quitte l'Allemagne en 1952 pour Paris. Il obtient 2 ans plus tard le premier prix du concours Woolmark ex aequo avec un certain Yves Saint-Laurent. Il rejoint alors l'équipe de Pierre Balmain avant de prendre les rênes de la maison Chloé, où il lance le prêt-à-porter et les accessoires de mode. Mais il est surtout connu, vous l'avez dit, pour être l'indétrônable directeur artistique de Chanel, maison dans laquelle il est rentré en 1983 alors que l'entreprise n'allait pas bien. Au service de la haute couture, Karl Lagerfeld a ainsi revisité, souvent avec humour, tout l'héritage de Coco Chanel, retravaillant par exemple le tailleur tweed, la marinière et même le logo au double C. Artiste éclectique, il était aussi connu pour l'extravagance des des défilés qu'il organisait avec des décors de romantiques ou de supermarchés géants, connu également pour avoir travaillé au décor de l'Opéra de Milan, mais sans jamais cesser de collaborer au prêt-à-porter. Car dans un grand entretien, sur France Inter en 2012, il le disait lui-même, il refusait de se dire artiste.
Et vous, qu'êtes-vous ? Moi, j'ai fait des robes, j'ai fait des photos, j'ai fait des livres, et je ne donne pas de label à ce que je fais. C'est aux autres de trouver ou de pas trouver, mais je trouve ça extrêmement prétentieux de se dire, moi, je suis artiste, moi. Vous savez, on a tendance à s'appeler vite artiste pour pas grand-chose.
Et dans une interview au magazine Numéro en avril dernier, il parlait aussi de la mort avec sérénité, refusant d'être enterré après, dit-il, l'expérience Hallyday à la Madeleine. J'ai demandé à ce que l'on m'incinère et que l'on disperse mes cendres avec celles de ma mère et celles de Choupette, sa chatte dont il était très proche.
Merci Cécile Le Carvazdo et nous reviendrons bien entendu à 18h donc sur la mort de l'icône mondiale de la mode et emblématique directeur artistique de Chanel, Karl Lagerfeld. On termine avec un mot de météo. Le temps sera globalement calme cet après-midi, alternant de belles éclaircies avec quelques passages nuageux. Les températures, elles varieront entre 9 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.